frères et sœurs, bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer. Ça fait plaisir de voir des visages connus et puis de voir des personnes nouvelles. En tout cas, bienvenue chez vous, bienvenue dans la maison de Dieu. Le thème qui nous rassemble porte sur la méditation du message du livre de Néhémie. Je ne sais pas ce que vous savez de Néhémie, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui a été appelé à reconstruire les murailles de la ville de Jérusalem et qui a été appelé à apporter un renouveau spirituel au sein du peuple. Mais le plus difficile, c'est pas d'être un maçon. Un maçon, quand il met une brique sur une brique, en général, la brique reste en place. Si elle n'est pas droite, on sait à qui s'en prendre. Quand on travaille avec l'humain, quand on bâtit l'église de Jésus, et nous sommes l'église, nous sommes appelés à des pierres vivantes, c'est autre chose. Savez-vous quels étaient les problèmes, numéro un, dans les milieux éducatifs en Amérique du Nord, et qui faisaient discuter entre eux les enseignants dans les écoles à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Les enseignants se plaignaient que les élèves bavardaient. Ils venaient parfois à l'école avec des tenues négligées. Ils jetaient les papiers à côté de la corbeille. Ils étaient parfois dissipés. Ils mangeaient du chewing-gum. Et ils ne rendaient pas toujours les livres de bibliothèque en temps et en heure. Ça, c'était en 1945, et c'était grosso modo les problèmes à déplorer dans les milieux éducatifs aux US. 50 ans plus tard, alors là, on a les problèmes, bien, c'est la délinquance juvénile, une jeunesse toxico, la drogue, viol des adolescentes, harcèlement. Et là, on a tout de suite monté de plusieurs crans plus haut. En 1948, il y a un sociologue et un historien suisse, Karl Zimmermann, qui a fait une étude pour essayer de comprendre pourquoi et comment les civilisations qui nous ont précédés, elles sont tombées dans le déclin. Et dans son étude bien documentée, il a relevé 6 ou 7 facteurs qu'il a cru repérer dans les différentes civilisations et cultures qui nous ont précédés et qui ont connu un déclin. Alors il nomme, on a supprimé la signification de la cérémonie et la nécessité de la cérémonie du mariage. Ils ont relevé le fait que l'adultère était banalisé. Je rappelle qu'en France, encore au début des années 1970, l'adultère figurait dans le code pénal. Ils ont relevé le mépris pour la maternité. Les enfants, c'est pas porteur et on méprise le métier de mère. La banalisation des perversions sexuelles. La contestation et la remise en question de l'autorité des parents. Voilà un historien, un sociologue, qui a cru détecter dans les civilisations qui nous ont précédés des facteurs qui ont provoqué la chute et le déclin d'une culture et d'une civilisation. Billy Graham, l'évangéliste, a dit un jour, « Si Dieu ne sanctionne pas notre génération, il devra présenter ses excuses pour avoir fait périr par le feu Sodome et Gomorre. » Le prophète Ésaïe, Ésaïe 5:20, 2600 ans en arrière, a dit « Malheur à ceux qui changent le bien en mal. Malheur à ceux qui changent le mal en bien. Malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière, la douceur en amertume et l'amertume en douceur. » Martin Luther King a dit un jour, bien des gens, quand ils voient ce qui se passe, ils sont là et ils se disent, mais pourquoi ça? Eh bien moi, je préfère rêver de choses qui ne sont pas encore et dire pourquoi pas. Vous voyez la différence entre une personne visionnaire et puis une personne, on va dire, défaitiste. Alors Néhémie, on va le voir, c'est un réparateur des brèches. Et il y a cette belle parole prophétique qu'on lit en Ésaïe 61. Alors d'abord, il est question du Messie, de Jésus. Et il s'approprie au début de son ministère public, dans Luc 4, ces paroles d'Ésaïe 61. « L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers la liberté. » Et Ésaïe, encore lui, 58, verset 12, dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et celui qui rend le pays habitable. » Ésaïe 58, verset 12. Alors vous vous en souvenez, Jésus a dit, il a promis et sa parole s'accomplit, « Je bâtirai mon Église. » Jésus est le bâtisseur. Mais face à nous, il y a un adversaire. Et soyons clairs, c'est le démolisseur, c'est le ravageur, c'est le saccageur. Et être membre du royaume, faire partie de l'équipe de Jésus aujourd'hui, eh bien, c'est marcher à sa suite. Alors, notre méditation va porter sur ces trois rencontres sur le message du livre de Néhémie, auquel moi je donne comme titre « Bâtir dans un monde en dérive ». Mais dans le Nouveau Testament, et vous en aurez deux pour le prix d'un, dans le Nouveau Testament, on a la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et on peut dire que la deuxième à Timothée, c'est le testament spirituel de Paul. Et moi je donne comme titre au message de 2 Timothée « Tenir la route dans un monde en déroute ». Et vous allez le voir, dans nos trois rencontres, on va esquisser des parallèles entre le livre de Néhémie et celui de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Voilà le menu du week-end que je vous propose et j'espère que personne n'aura envie de changer de restaurant. Cet après-midi, nous allons réfléchir sur capter et transmettre la vision pour travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est ça le maître mot. Demain matin, on poursuivra notre réflexion sur la thématique « Tenir bon en faisant face à l'opposition et en restaurant l'autorité de la parole de Dieu ». Et puis demain après-midi, nous traiterons de cette question de renouveler son engagement avec le Seigneur pour bien remplir sa mission. Donc, pour cet après-midi, capter et transmettre la vision pour travailler ensemble. Alors, un petit rappel historique, un petit peu fastidieux pour ceux qui sont fâchés avec l'histoire, mais c'est bien de situer les choses dans leur contexte. En 539 avant Jésus-Christ, l'Empire babylonien a été démantelé par les troupes médo-perses avec Cyrus. Les Juifs reviennent alors de leur exil babylonien et rentrent au pays d'Israël. En 538 avant Jésus-Christ, un premier convoi de Juifs arrive en Juda sous la direction de Zorobabel. On lit ça dans Esdras 1 et le début du chapitre 2. De 538 à 515, le temple est reconstruit sous Zorobabel conformément aux prophéties des prophètes, donc Agée et Zacharie. Pendant l'automne 457 avant Jésus-Christ, Esdras mène une expédition de Juifs à Jérusalem. Il trouve les Juifs qui étaient restés en Israël en situation de décadence morale et spirituelle. Esdras va initier une réforme. On lit ça dans Esdras chapitre 7 versets 1 à 10. L'un des résultats du ministère d'Esdras fut la tentative de reconstruire les murailles de Jérusalem, ce qui provoqua l'opposition des officiels perses au-delà du fleuve qui protestèrent auprès d'Artaxerxès, qui fit interrompre les travaux. Et on lit ça dans Esdras au chapitre 4. Dernière notice historique, si vous me suivez encore. Le retour de Néhémie à Jérusalem se situe sous le règne du roi Artaxerxès Ier. Grosso modo, entre 465 et 424 avant Jésus-Christ. Donc, vous aurez compris que ça date pas d'hier. Néhémie a séjourné à Jérusalem à partir de la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, jusqu'à la 32e, jusqu'à la 32e année, d'après Néhémie 13, verset 6, c'est-à-dire de 445 à 433 avant Jésus-Christ, pour entreprendre la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et selon Néhémie 13, verset 6, il est revenu de Babylone à Jérusalem une seconde fois, donc vers 430-425, pour mener une réforme similaire à celle d'Esdras. Donc, ça fait quand même un bail, plus de 2400 ans que ces faits se sont produits dans l'histoire. Alors nous en arrivons donc dans le début du livre de Néhémie, et au premier chapitre, le décor est planté. Néhémie va prendre connaissance de la situation. Alors Néhémie, il est en exil à Babylone, à Suse, et il y a un compatriote de Jérusalem qui passe, et évidemment Néhémie va demander des nouvelles. Alors Néhémie chapitre 1er, verset 1, histoire de Néhémie, fils de Hakalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » La première chose que j'observe, c'est que Néhémie, il a cherché à trouver la bonne information, mais à la bonne source, de source autorisée. Les compatriotes de passage, c'est l'occasion ou jamais de demander des nouvelles du pays. Et voilà ce que nous lisons au verset 4. Et la question est de savoir comment on gère l'information qu'on reçoit. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis, je me mis à pleurer, et pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Vous savez, parfois on demande à quelqu'un comment ça va, mais on n'attend pas la réponse. Alors on est pris de court si la personne nous dit « Tu veux vraiment savoir ? T'as une minute ? Assieds-toi. » On n'est pas toujours prêt à entendre la réponse. Mais Néhémie, quand il a entendu la réalité de la situation, c'est le genre d'information, comme on dit, qui n'est pas rentrée par une oreille et qui n'est pas sortie par l'autre. Parce que ça l'a touché, ça l'a affecté au point. Alors, il était échanson, il avait comme ministère de goûter le vin du roi. C'était un conseiller d'Artaxerxès. C'était quand même pas rien. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font à Jérusalem? Il n'y en a pas un qui va se bouger, qui va se remuer pour se lancer dans la reconstruction des murailles? Quelqu'un a dit parfois que l'église, c'est comme Roland-Garros. Il y en a deux qui bossent et tout le monde regarde. Et Néhémie, il aurait pu dire, mais attendez, c'est quoi ça? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'information qu'on reçoit? Bon, moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de regarder la télé en mangeant, parce qu'il y a des news qui ont de quoi nous faire perdre l'appétit. Mais il y a des nouvelles quand ça vous atteint. Ben franchement, il y a un avant et il y a un après. Et Néhémie, il a pleuré sur Jérusalem. Ben rappelez-vous, dans l'évangile, Jésus a versé des larmes sur Jérusalem qui refusait de se repentir et qui ne savait pas accueillir les prophètes que Dieu lui envoyait. Quel regard posons-nous sur le monde dans lequel nous vivons? Alors c'est vrai qu'on peut parfois faire une overdose d'informations. Il y a nos parents, nos grands-parents vivaient peut-être dans un déficit d'informations. Nous, il y a de quoi faire une overdose. Et dans la suite des versets au chapitre 1er, Néhémie, dans une prière, dans les versets 5 à 11, va épancher son cœur. Je suppliais, ah éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, oh prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs des Israélites et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. J'admire la maturité spirituelle de Néhémie. Il a su gérer ses émotions d'une manière spirituelle. D'abord, il a stoppé la machine. On ne peut pas dire que... Il a coupé le wifi et éteint son ordinateur. Mais il s'est recueilli devant Dieu et il a pleuré et il a épanché son cœur devant Dieu. Mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots, M-A-U-X, c'est thérapeutique et j'allais dire c'est biblique. Et ça va éviter d'enfoncer la sécu encore plus dans le trou, dans le déficit financier qu'elle ne l'est déjà. Vous imaginez bien que pendant ce temps de prière, les choses se sont décantées dans l'esprit de Néhémie. Et la vision, elle est entrée dans son cœur. Elle s'est formée, cette vision. Il a vraiment capté la vision, il a épanché son cœur. Néhémie a refusé le statu quo. Parce qu'au fond de lui-même, il a dû se dire, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ce que je fais en tant que haut fonctionnaire au service de l'empereur. Par contre, se lever, mouiller le maillot et mettre les mains dans le cambouis pour reconstruire les murailles de Jérusalem, ça ne se bouscule pas au portillon. Alors pour faire court au chapitre 2e et notamment dans les versets 17 et 18, on voit comment Néhémie a transmis la vision. C'est alors seulement que je leur dis, vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. Et je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit et ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Alors ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Comment savoir si la vision a été transmise? Eh bien, c'est quand les membres du peuple disent avec leurs mots ce que le message que le leader cherche à faire passer. Levons-nous et bâtissons. Et là, cette prise de conscience, ce mouvement, on va dire, de l'esprit qui touche les cœurs, va conduire le peuple à se mobiliser et à reconstruire les murailles. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais entre-temps, Néhémie a tout arrangé pour pouvoir revenir à Jérusalem. Et je rappelle qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas regarder sur l'Iligo quel était le vol le plus direct entre Suse et Jérusalem. Il fallait anticiper, mais Néhémie, en bon visionnaire, il a coché toutes les cases et il a pu venir à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il a inspecté lui-même tout seul, de nuit, pour exposé l'état des lieux. Et puis après, il a transmis la vision. Alors on parle des ruines de Jérusalem, la muraille de Jérusalem, qui est à la merci de des ennemis qui peuvent envahir la ville. Mais posons-nous des questions sur notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie professionnelle, notre vie d'église. Quid de la muraille? N'y aurait-il pas des fissures à boucher? Si vous avez acheté une maison qui nécessite des travaux, j'ai pas besoin de vous faire des dessins. Y a-t-il des failles à combler, des brèches à colmater, des décombres à déblayer, des ruines à reconstruire? J'ouvre une parenthèse, je suis content de voir des gens qui prennent des notes. Jésus aime ceux qui ne prennent pas des notes, et moi aussi, je les aime. Mais pour vous détendre sur votre chaise, mon PowerPoint, vous pourrez y avoir accès. Voilà, je ferme ma parenthèse. On vit dans un monde en déroute. Alors je vous ai parlé de Timothée, de Paul, dans son message qu'il transmet à Timothée. Et Paul va dire, Timothée, tu vis dans un monde qui ne tourne pas rond. Et la question est de savoir comment survivre dans un monde qui ne tourne pas rond. Voilà ce que Paul écrit dans 2 Timothée 3, verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Mais citations sont tirées de la Bible version du Semeur. Dans certaines traductions, sache bien que dans les derniers jours. Les derniers jours dans l'Écriture, c'est l'espace de temps qui s'insère entre la première et la seconde venue de Jésus. Nous sommes dans les derniers jours. Les premiers chrétiens, et Paul en tête, étaient conscients de vivre dans les derniers jours. Alors plus que jamais, nous y sommes. Et Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps pénibles à vivre, difficiles, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien. Non mais c'est affolant cette description. Moi quand je lis ça, je dis, mieux vaut vivre chez Babar au pays des éléphants. Parce que là, il y a de la solidarité, puis j'allais dire, pas de l'humanité, mais enfin parfois l'animal a des leçons à donner aux bipèdes vertébrés, soi-disant humanisés que nous pouvons être. Verset 4. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, verset 5, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Quand on lit ces versets, mes amis, mais moi je vois défiler tous les faits divers qui défraient la chronique de nos quotidiens et qui font la une de nos journaux télévisés. Pas besoin de dessin. Alors, comment vivre dans un monde en déroute? Eh bien, Paul dit à Timothée, il faut que tu comprennes que le problème numéro un, c'est pas de l'argent. C'est pas des problèmes économiques. C'est pas des problèmes de culture ou même d'écologie. Et en disant ça, je ne crache pas dans la soupe. Bien sûr que ce sont des éléments à prendre en compte. Mais pour Paul, le problème numéro un, c'est le cœur de l'homme qu'il faut changer. Parce que ce qui pose problème dans les derniers temps, mais que je sache depuis Adam et Ève, mais plus que jamais dans les derniers temps, c'est le cœur de l'homme qui doit être transformé. Et mes amis, la question est posée. 1. Sommes-nous convaincus que le problème numéro un du point de vue de Dieu, c'est le péché? 2, sommes-nous convaincus de la gravité du péché? Et 3, sommes-nous convaincus de l'efficacité du message de l'Évangile? En somme, si on fait passer au cœur humain une IRM gratuitement et sans rendez-vous, voilà le tableau clinique qu'on trouve. Dans ce monde en déroute, Paul dit, les hommes, ils aiment égaux, moi. Parlez-moi de moi. Il n'y a que moi qui m'intéresse. Vous savez, quand vous visitez un musée devant la Mona Lisa, les gens aiment bien se faire prendre en selfie devant la Mona Lisa. Et moi, je me demande, mais c'est qui le chef-d'œuvre, au fait? Bon, je ferme ma parenthèse, je ne le dis pas tout haut. Paul dit, ils seront avides d'argent. J'aime les sous. Gripsou, Picsou, Rapetou, je vous renvoie à vos classiques. Paul dit, ils sont emportés par leur passion. C'est le maître mot, se faire plaisir. Si tu te fais pas plaisir, bah t'es une larve. Enflé d'orgueil. Il y a des personnes, quand elles se regardent dans le miroir, un miroir ça suffit pas, il en faut au moins deux. Paul dit, les gens aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils auront une spiritualité, mais c'est de la façade, c'est une coquille vide. Ils sont opposés à la vérité. Et au chapitre 4, versets 3 et 4, Paul dira, ces gens-là, ils préfèrent un mensonge qui les arrange à une vérité qui les dérange. Ben, si on veut écouter un mensonge qui nous arrange, ben, on écoute les faux prophètes. Sauf que les vrais prophètes, eux, ben, ils parlent des choses qui fâchent, ils appellent le péché par son nom et ils appellent à la repentance. Mais le résultat n'est pas le même. Donc voilà le monde dans lequel on vit et Paul, le tableau qu'il nous en dresse, c'est affolant parce que on se rend compte que les relations interpersonnelles sont aliénées. Dans l'original, en grec, il y a souvent un préfixe privatif pour dire que, par exemple, on s'attendrait à ce que naturellement les enfants respectent leurs parents. Eh bien, dans l'original, il y aura un préfixe privatif qui dit, eh ben non, c'est le contraire. Normalement, ils devraient respecter leurs parents, mais non, surtout pas. Voilà le tableau clinique déplorable du cœur humain. Alors Paul veut encourager son protégé, Timothée, pour vivre dans ce monde en déroute. Alors il va lui dire au chapitre 2, verset 1, Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est la priorité numéro 1. Pour tenir la route dans ce monde en déroute, pour garder la tête au-dessus de l'eau, eh bien il faut puiser à la source, et c'est Jésus. Et là, ça traite de notre relation personnelle avec Jésus au quotidien, et pas seulement le dimanche matin. Et Paul va dire, pour vivre dans ce monde en déroute, et tenir la route, et tenir debout, ne romps pas la chaîne de transmission. Paul va dire, Timothée, ce que tu as reçu, transmets-le à des hommes fidèles qui vont le transmettre à d'autres et ça va faire boule de neige. La question qu'on peut se poser, c'est à qui est-ce que moi je transmets ce que j'ai reçu? Le métier de parent, c'est de transmettre. Et le ministère numéro un des parents, c'est aimer. Comme Dieu nous aime. C'est tout un programme. Mais la question, c'est à qui est-ce que je transmets ce que j'ai reçu? Une autre question que l'on peut se poser, c'est qui est-ce qui m'inspire le plus? Alors autrefois, on disait c'était les parents qui influençaient le plus leurs enfants. Bon, ben rapidement, on a découvert que c'est pas si simple que ça. Alors parfois, nos ados le savent, hein, si c'est la mère du copain qui dit une fois ce que les parents ont dit pendant 20 fois, là ça porte davantage, hein, parce que c'est la mère du copain qui l'a dit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on dit vu à la télé ou sur les réseaux sociaux, ben voilà, la concurrence est rude. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, bien évidemment. Mais Paul va dire, Timothée, inspire-toi de modèles stimulants. Et dans son deuxième chapitre, dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul va mettre en exemple 7 personnes différentes dont Timothée doit s'inspirer. Et la question est de savoir quel modèle stimulant va m'inspirer. Et donc Paul dit, tire profit de l'exemple des bons modèles. Et dans ce passage que vous connaissez, il va d'abord parler du soldat. Le soldat, par définition, il ne cherche pas son confort personnel. Et Jésus a bien dit, le disciple, il doit renoncer à lui-même, mourir à lui-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Paul va mettre en évidence la discipline du sportif de haut niveau. On ne peut pas être disciple de Jésus sans être discipliné. La maîtrise de soi, c'est un gros mot dans notre culture. C'est pas coté en bourse, mais ça vaut mieux que tout ce que l'or en barre de la planète pourrait procurer. Paul, au verset 6 et 7, va prendre l'image du cultivateur, la persévérance du cultivateur. On n'imagine pas un agriculteur qui laboure son champ le lundi matin, qui l'ensemence le lundi après-midi et qui, le mardi matin, va arriver tambour battant avec sa moissonneuse batteuse. C'est pas si simple que ça. Et il faut arrêter d'être de pas vivre sur la bonne planète. Paul, au verset 8, va dire « Considère, souviens-toi de Jésus-Christ. Suis, inspire-toi de l'exemple de Jésus. » Et quand on prêche, quel que soit le sujet sur lequel on prêche, on a de quoi faire un rapprochement dans une interprétation christocentrique, rapprochement avec la personne et l'œuvre de Jésus. Toujours au chapitre 2, versets 9 et 10, Paul dit à Timothée, « Suis mon exemple personnel. » Paul dira aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. » Ben là, c'est pas des yaka, il faut qui, ils ont qu'à. Non, Paul dit, tu m'as vu, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre et c'est aux œuvres qu'on reconnaît le chrétien. La messe est dite. Et Paul dit, ce que tu m'as vu faire, eh bien, voilà, tu as un modèle sous les yeux. Et au verset 15, il va parler de l'artisan éprouvé qui a fait ses preuves, qui a fait preuve d'intégrité. Dieu sait si aujourd'hui une personne fiable, honnête, intègre, pas seulement dans les affaires, ben on a vite fait de la repérer, hein. Et ça sort du lot. Et puis dans les versets 20 à 26, Paul va dire, inspire-toi du modèle du serviteur de Dieu fidèle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels et imitez leur foi. » On a tous besoin de personnes qui nous donnent envie de leur ressembler. L'enfant apprend par mimétisme. Et quand on a en face de soi une personne, au fond de soi, on se dit, « Waouh, moi j'aimerais bien être comme lui, être comme elle. » En général, avec ces gens-là, on ne va pas passer nos prochaines vacances. On ne les voit peut-être pas très longtemps. Mais franchement, c'est bon pour le moral et ça laisse des traces positives. Et ce ne sont pas des personnes toxiques, parce que ça existe. C'est comme les champignons vénéneux. À bon entendeur, salut. Donc, Paul dit à Timothée, « Timothée, pour tenir la route dans ce monde en déroute, laisse-toi tirer vers le haut et non pas vers le bas. Et fixe ton attention sur des personnes qui vont t'encourager à devenir meilleur que ce que tu es. » Ben, on peut se poser la question, quelle personne m'inspire, me donne envie, me stimule? Mais on peut aussi se poser l'autre question, pour quelle personne est-ce que je suis un modèle? Pour quelle personne est-ce que j'incarne un modèle à suivre? Moi, parfois, dans ma petite tête, je me pose la question, si tout le monde dans l'église locale suit mon exemple personnel, qu'est-ce qui va se passer? quelle image les autres, quel message est-ce que j'envoie par mon attitude dans l'église locale ou dans ma vie de couple? Ce sont des bonnes questions à se poser. Alors, un des grands défis de Néhémie, il a transmis la vision au chapitre 2, c'est de faire travailler des personnes ensemble. Et là, c'est le défi. J'ai 5 enfants et je me souviens pendant un temps, alors on a fait beaucoup de jeux en famille, mais parfois, entre l'aîné et le cinquième, il y avait 11 ans d'écart, mais parfois pour trouver un jeu de société qui convienne à tout le monde, eh ben, on perdait tout notre temps. Et une fois qu'on avait enfin trouvé, ben c'était l'heure d'aller se coucher. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas toujours simple, hein. C'est normal, vous me direz. On a des goûts différents. Oui, on aurait pu faire 2 équipes différentes. Je suis d'accord avec vous. La question est de savoir, est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on est l'un contre l'autre? Je ne sais pas à qui vous pouvez vous identifier. Évidemment que toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas pure coïncidence. À bon entendeur, salut. Martin Luther King a dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou à périr ensemble comme des... » Je vous dirai pas le mot, on va dire en français évangéliquement correct, comme des imbéciles. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou à périr ensemble comme des insensés ou comme des imbéciles. La question qui tue, c'est est-ce que oui ou non, j'ai l'esprit d'équipe? Et ça, vous l'avez compris. Ça s'entend autant dans le contexte de Néhémie que dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans la vie d'église, dans le voisinage, dans la vie sociale où on est impliqué. Il y a des gens, c'est clair, ils se la jouent perso. Ils considèrent qu'à eux-mêmes, ils sont une planète dont l'objet est de satelliser tout ce qui bouge pour être à leur service. Il y a des gens qui ne considèrent que mes avantages, mes privilèges, mes intérêts. Et si vous ne l'entendez pas de cette oreille, ils vont vous rayer de la carte. Et ils vont vous faire comprendre que c'est pas de ce bois-là dont ils se chauffent. Alors on en arrive donc à Néhémie chapitre 3. C'est un très beau chapitre. Et je choisis simplement quelques versets. Versets 1 à 4, Éliashib le grand prêtre se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Entre parenthèses, quand les ecclésiastiques mettent les mains dans le ciment, ben c'est qu'il se passe quelque chose, hein. Bon, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des gens qui sont compétents dans pas mal de domaines. Moi je veux bien prêcher, mais ne me posez pas trop de questions sur la plomberie et l'électricité. Non. Donc il faut connaître ses limites, mais là on voit dans le texte que toute la catégorie sociale a mis les mains dans le ciment. Regardez verset porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants, puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. Verset 2. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zakour, fils d'Imri, qui bâtissait. Verset 3. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Verset 4. À côté d'eux, Meremoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshezabelel, et plus loin, Tsadok, fils de Bana. Là, vraiment, c'est là où il faut faire la photo de famille. Parce que c'est beau de voir quand tout le monde met la main dans le ciment. Et là, tout le monde... est dans le même bateau. Alors, dans ce chapitre 3, on relève des choses extraordinaires. Alors d'abord, on observe que toute la population a répondu à l'appel de Néhémie, comme un seul homme. On s'est mobilisé. On était motivé. On observe que Néhémie a constitué 42 équipes différentes qui permettaient à chacun de se sentir responsable d'une partie de la muraille. Et ça, c'était très habile. J'ai entendu l'histoire d'une petite fille au Moyen-Âge. Vous savez, au temps des bâtisseurs de cathédrales. Et quand on commençait à bâtir une cathédrale, on était parti pour entre 50 ans et un siècle, au bas mot. Hein. Et pratiquement, celui qui commençait n'avait peu de chance de voir la cathédrale terminée. Et un jour, alors que la cathédrale était terminée et que tout le monde admirait cette cathédrale, il y avait une petite fille de 10 ans qui se vantait auprès de ses copines. « Moi, j'ai participé à la construction de la cathédrale. » Ses copines lui ont dit « Quoi ? Comment ?» Eh oui, chaque jour, j'apportais la gamelle de mon papa qui montait sur les échafaudages et dans sa tête de petite fille, elle avait compris qu'elle faisait partie de l'équipe qui avait construit la cathédrale. Vous vous rendez compte si dans la vie de couple, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, dans l'église, chacun a le sentiment de faire partie de l'équipe. J'ai entendu l'histoire d'une personne qui faisait un audit d'entreprise. Et il a posé une ou deux questions identiques à tout le monde, du PDG jusqu'à la personne en bas de l'échelle. Et il a été étonné d'entendre pratiquement, avec les mots des personnes, la même réponse dans la bouche de tout le monde. Parce que tout le monde savait, un, quel est le but de la boîte, l'objet de l'entreprise, et deux, quelle place est-ce que moi, je remplis dans la boutique. Alors bien sûr que l'église, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas une entreprise, mais si par la grâce de Dieu, chaque membre du corps de Christ a le sentiment de faire partie de l'équipe qui gagne ou qui perd, on est dans le même bateau. Et là, ça donne envie. Chacun travaille tout près de chez lui. Et puis, Néhémie a organisé d'une manière rationnelle et fonctionnelle. Alors, dans ce travail en équipe, on ne trouve aucune trace de murmure ni de dissension. Un petit bémol pour autant, une ombre au tableau, au verset 5, c'est la seule exception. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Vous savez, dans un troupeau, il y a toujours un mouton à cinq pattes. On espère toujours que ce mouton à cinq pattes, on préférait qu'il soit dans l'église du voisin. Hein. Mais voilà. Alors on observe dans ce chapitre 3 des ouvriers très différents. Il y a des prêtres, des fermiers, des commerçants, des orfèvres, des femmes. Moi, je ne crois pas rêver trop fort ni trop haut en osant dire que l'Église de Jésus-Christ, dans sa version multiculturelle, elle n'est pas mono, elle est stéréo. Et puis, il y a toutes les couches sociales de la population représentées. Eh bien, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est cette foule multiethnique, pluriculturelle, de l'Apocalypse qui célèbre un culte à notre Seigneur. Alors on voit une équipe soudée, solidaire, en marche. Pour autant, ne tombons pas dans l'angélisme, parce que cette belle unité du chapitre 3, qui n'est pas une unité de façade, elle va voler en éclats au chapitre 5e, comme nous le verrons demain. L'apôtre Paul, pour maintenir l'unité au sein de la diversité et faire travailler toute une équipe, dans Éphésiens 4 et 1-3, il dit « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous était adressé. Soyez toujours humbles. » Premier outil, l'humilité pour permettre à une équipe de personnes tellement différentes de travailler ensemble. Moi, je n'ai jamais vu une église se diviser suite à une overdose d'humilité. Le contraire, pas besoin d'avoir un microscope électronique, ça s'est avéré et ça arrive. L'humilité. Deuxième outil pour maintenir l'unité dans la diversité, la douceur. Et la douceur, c'est l'idée qu'un tempérament fort, maîtrisé par le Saint-Esprit, eh bien, la douceur, c'est le fruit de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, il arrondit les angles, les parties anguleuses du caractère. La douceur comme deuxième outil. Troisième instrument, la patience. On est loin de « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite ». Quatrième outil, supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors en général, on est conscient de ce qu'on doit supporter chez les autres. Mais si on tourne les feux de la rampe dans l'autre direction, est-ce que je suis conscient de ce que l'autre doit supporter chez moi? Et puis, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » La paix qui vient de Dieu. Voilà des outils, des instruments concrets, pratiques, à notre disposition pour vivre l'unité en tant que personne tellement différente. Alors, vous m'avez compris, travailler seul, ça permet d'aller plus vite, mais travailler ensemble, ça permet d'aller plus loin. Et la question, et on va terminer là-dessus, c'est l'esprit d'équipe. Il y a des attitudes qui détruisent l'esprit d'équipe, et il y en a d'autres qui le renforcent. Qu'est-ce qui détruit l'esprit d'équipe ? L'orgueil, l'égoïsme, l'individualisme, le manque de loyauté et de solidarité. Qu'est-ce qui renforce au contraire l'esprit d'équipe? L'humilité, on vient de voir, la patience, la transparence, la redevabilité, et puis on pourrait ajouter la solidarité. On est dans le même bateau. En 98, quand on a gagné, on a dit « on a gagné », je ne vais pas vous la chanter. Et après, quand on a perdu, il y en a qui ont dit « ils ont perdu, ils ont... » Alors, on est solidaire quand l'équipe gagne et on se désolidarise quand l'équipe perd. C'est pas ça l'esprit d'équipe. Alors, la bonne nouvelle dans Néhémie 6, 15, c'est que la muraille fut achevée en 52 jours. Et lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les peuples étrangers qui nous entouraient furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait été mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a plus de 60 verbes suivis de « les uns les autres » ou « mutuellement ». Et je vous recommande l'excellent livre de Alfred Kuhn, « Les uns les autres ». Et grosso modo, on peut récapituler toutes les exhortations du Nouveau Testament avec des verbes suivis de « les uns les autres » ou « mutuellement » par ces quatre mots. Des versets qui nous exhortent à promouvoir la tolérance. 2. À maintenir l'unité. 3. À démontrer un esprit de service. Et 4. À rechercher l'édification mutuelle. La tolérance, l'unité, le service et l'édification. Donc, en terminant, j'aimerais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les 17 lois infaillibles du travail en équipe », écrit par John Maxwell. C'était un homme d'affaires et ensuite il était pasteur. Et il a étudié dans le milieu sportif, dans les équipes, pourquoi certaines équipes gagnent et d'autres perdent. Et c'est intéressant, il en a tiré 17 lois. Bon, pour vous, je fais une récap très rapide. J'en ai retenu 13, mais il y a déjà de quoi se mettre sous la dent. Premièrement, pour travailler ensemble, l'objectif à atteindre par l'équipe est plus important que le rôle que moi je joue dans l'équipe. On parle de tel ou tel footballeur, ballon d'or, qui a marqué le but, mais en général, il y a quelqu'un qui lui a fait la passe. C'est quand même un travail d'équipe. Pour qu'une équipe atteigne son potentiel, chaque joueur doit être prêt à subordonner ses objectifs personnels à l'intérêt suprême de l'équipe. L'équipe tout entière est plus grande que la somme de tous les équipiers. Deuxièmement, l'important, c'est de se trouver à sa place. Dans une équipe, chaque joueur doit occuper la place qui correspond à ses compétences. C'est la loi du créneau. Lorsque chacun se trouve à sa place, occupant la fonction qui met le plus en valeur ses points forts, l'équipe est en mesure d'atteindre son potentiel maximal. Troisièmement, plus le défi à relever est grand, plus le travail en équipe est nécessaire. C'est la loi du Mont Everest. Mon potentiel personnel ne dépassera jamais celui de mon équipe. Quatrièmement, la force d'une équipe, elle est entravée par son maillon faible. C'est la loi de la chaîne. Les membres les plus forts sont censés aider les plus faibles par souci de solidarité. Cinquième principe, des équipes gagnantes possèdent des joueurs qui dynamisent les autres. C'est la loi du catalyseur. Les catalyseurs insufflent du punch aux autres. Les équipes gagnantes possèdent des joueurs qui dynamisent les autres et qui savent créer une bonne ambiance. Et il dit qu'il y a trois sortes de personnes dans une équipe. Il y a des gens qui ne veulent pas le ballon. Bon ben, c'est pas la peine d'insister. Il y en a d'autres qui veulent le ballon, mais qui ne doivent pas l'avoir, surtout quand leur ego dépasse leur talent. Et oui, ça existe. Et puis, il y a ceux qui veulent le ballon et qui doivent l'avoir, parce qu'ils sauront de quoi en faire. Pour qu'une équipe soit gagnante, il lui faut des éléments moteurs. Sixièmement, l'importance d'avoir une vision claire donne aux membres d'une équipe une motivation et de l'assurance. C'est la loi de la boussole. Les grandes visions précèdent les grandes réalisations. Septièmement, les attitudes négatives démolissent une équipe. C'est la loi de la pomme pourrie qui pourrit les autres. Si la bonne attitude des joueurs d'une équipe ne garantit pas automatiquement son succès, les mauvaises attitudes des joueurs vouent l'équipe à l'échec. Lorsque les attitudes personnelles s'améliorent, le potentiel de l'équipe augmente. La seule chose qui soit plus contagieuse qu'une bonne attitude, c'est une mauvaise attitude. Et des attitudes négatives qui démolissent l'équipe, c'est le refus d'admettre ses torts, le refus de pardonner, la jalousie, la volonté de vengeance, le fait d'être imbu de sa personne et l'esprit critique et de jugement. Bon, vous me direz, on lit l'évangile, on a tout ça, hein. J'ai bientôt terminé. Huitièmement, les coéquipiers doivent pouvoir compter les uns sur les autres, surtout dans les moments difficiles. Oh, pardon, alors, je sais là, il faut regarder. Voilà. Les coéquipiers doivent pouvoir compter les uns sur les autres, surtout dans les moments difficiles. C'est la loi de la solidarité. Personne n'apprécie les traîtres. Le plus beau compliment que l'on puisse vous faire, c'est quand on vous dit « Je sais qu'on peut compter sur toi ». Neuvièmement, quand l'équipe refuse de payer le prix, elle ne développe pas tout son potentiel. C'est la loi du prix à payer. Les champions de course sur 100 mètres n'améliorent pas leur record de quelques secondes. mais de quelques centièmes de seconde, et pas toujours du jour au lendemain. Nous recevons rarement plus que le prix que nous sommes disposés à payer. Ben, j'allais dire, la vie de couple, c'est comme ça. On en retire ce qu'on est prêt à y investir. Dixièmement, quand l'équipe sait où elle en est, elle peut faire les ajustements nécessaires. C'est la loi du tableau d'affichage. On a besoin de savoir où on en est. On a besoin de faire un check-up, hein, pas seulement médical, mais dans la vie d'église. Et en tant que responsable, on doit se poser des bonnes questions. Hein. Quand on lit l'IRM que Jésus a fait passer aux sept églises de l'Apocalypse, Apocalypse 2 et 3, ben, on voit le résultat et ce qu'il faut faire. Et puis, avant-dernier, l'importance... Alors, les valeurs de l'équipe doivent être explicites, comprises et partagées. On doit tous être à la même page et avoir le même agenda. Ça procure une certaine stabilité, et quand on sait que tout le monde est sur la meilleure onde, sur la même longueur d'onde, on doit savoir c'est quoi l'Église, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je peux en recevoir, etc. Et puis, avant-dernier point, l'importance de bien communiquer dans l'équipe. Dans une équipe efficace, les coéquipiers se parlent. Quand on regarde un match à la télé, on ne se rend peut-être pas toujours compte, mais ça communique. Et dans l'Église, on doit communiquer les uns avec les autres. Ça resserre le lien entre les équipiers. Et puis enfin... Le 13e point sur les 17 que je relève, la qualité du leadership est le fer de lance de l'équipe qui fait toute la différence. La clé du succès d'une équipe tient à de multiples facteurs, le talent, le travail acharné, la compétence, l'esprit d'équipe, mais aussi la qualité du leadership. Et les leaders sont appelés à être des propulseurs, des gens qui entraînent. Bon, c'est dans le milieu sportif, mais vous l'avez compris, il y a bien des points communs et je pense qu'on peut s'y retrouver et réfléchir sur comment on fonctionne dans l'Église de Jésus-Christ. On est tous appelés à être des pierres vivantes et on est l'Église, on est un édifice spirituel. Et s'il y a une pierre qui manque, eh bien, j'allais dire, il y a un trou dans l'édifice ou un trou dans la raquette. Bien, j'ai beaucoup parlé, je vous félicite, vous m'avez écouté religieusement. On avait prévu, dans la demi-heure qui vient, un temps de réflexion en petit groupe. On va vous distribuer les questions, mais grosso modo, voilà. Moi, dans ce petit groupe, le but, c'est que vous puissiez réagir à ce que vous avez entendu. Et la première chose à vous demander, qu'est-ce qui me parle dans ce que j'entends ? Si rien ne vous parle, vous passez à la question suivante. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans le monde dans lequel je vis ? Deuxièmement, quels modèles inspirants sont de nature à me booster ? Trois, quel est mon plus grand défi dans mon rapport à autrui ? Les uns les autres, travailler les uns avec les autres, hein, c'est ça. Et puis enfin, quatre, quel bienfait ai-je découvert dans le fait de travailler en équipe ?